Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Malgré le manque de moyens, ils font face au coronavirus. Applaudis tous les soirs à 20h. Les soignants font parfois aussi des kilomètres pour sauver des vies. Rencontre dans ce journal avec une infirmière volontaire qui a rejoint les troupes parisiennes. 6500 morts en France selon le dernier bilan en date. Nombre qui tient désormais compte de la mortalité dans les EHPAD. Des établissements qui ont parfois du mal à communiquer sur la maladie, on le verra. Le coronavirus et l'annulation des épreuves du bac contrôle continuent. Mais comment faire pour que les élèves restent assidus? La Chine, elle, s'est figée 3 minutes ce matin. Drapeaux en berne et sirènes, hommage aux victimes du Covid-19. Pensez l'après-coronavirus. Des députés de gauche et de la majorité appellent à la réflexion. La droite, elle, a la parole à 8h20, Eric.
Oui, ce sera avec le numéro 3 du mouvement Les Républicains, Aurélien Pradier, député du Lot. La crise sanitaire et économique vue de droite. Vos questions dès maintenant à Aurélien Pradier. C'est au standard 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la menace du patron de l'UEFA aux ligues de foot européennes et puis de jeunes pousses parisiennes. C'est de la musique en fin de journal.
France Inter.
Ne pas compter ses heures, oublier sa fatigue et sa peur aussi. Les soignants en première ligne dans la lutte contre le coronavirus sur le terrain. Un terrain d'ailleurs pas toujours près de chez eux. Dans cette bataille, certains font des kilomètres pour aller prêter main forte là où les besoins sont les plus urgents. Ils sont ainsi plus de 300 ce week-end en renfort dans les hôpitaux parisiens. Venus d'autres régions, Alexandra, infirmière de 32 ans, a quitté sa famille en Bourgogne-Franche-Comté et travaille depuis une semaine, deux nuits, en réanimation à l'hôpital Bichat de Paris. Mathilde Dehémy.
Ses nouveaux collègues parisiens lui sont reconnaissants d'avoir laissé sa famille à Mâcon pour les épauler dans la crise. Un engagement naturel pour Alexandra.
Chaque infirmier qui peut apporter son aide, c'est un lit, si le matériel suit, qui sera peut-être disponible pour quelqu'un qu'on aurait refusé autrement.
Car tous ne peuvent pas remplacer au pied levé. La réanimation est une spécialité délicate qui demande une formation très technique.
On appuie sur des boutons qui vont gérer le rythme cardiaque, la respiration, le flux sanguin. On tient la vie de nos patients du bout des doigts, en fait, pendant 12 heures de temps.
Rester concentré malgré la fatigue et faire des choix parfois entre sa sécurité et la vie des patients.
Quand votre patient est en train de s'étouffer, soit vous rentrez rapidement pour l'aider à respirer parce que les secondes sont très longues pour lui, soit vous prenez le temps de vous habiller correctement pour vous protéger et lui, il va pas bien pendant ce temps-là.
Il n'y a pas encore assez de masques, la peur de la contamination est là. Alors quand Alexandra rentre dans son Airbnb, elle est choquée de voir du monde dans les rues.
Je trouve ça grave parce qu'en fait, les gens qui sont dehors actuellement, c'est des gens qui risquent d'être notre deuxième vague d'ici 15 jours, 3 semaines. Et on va être encore plus débordés.
Tous ces patients ne sont pas des chiffres, dit Alexandra, mais des gens, des familles qu'on essaie de sortir de là. Et chaque nuit, 2 décès autour de moi.
Et 588 personnes sont mortes en 24 heures dans les hôpitaux français, selon le dernier bilan officiel. Plus de 6500 morts depuis le début de l'épidémie, un peu plus 6600 malades hospitalisés en réanimation. Mais depuis quelques jours, l'augmentation a tendance à ralentir, lueur d'espoir, tout comme ce nombre. Un peu plus de 14 000 personnes sont sorties guéries des hôpitaux, 1580 rien qu'hier.
Oui, et ce bilan des victimes du Covid-19 prend désormais en compte celui des EHPAD.
Les établissements pour personnes âgées dépendantes doivent signaler lorsqu'un résident meurt du coronavirus. Les premières publications datent de jeudi. Certains EHPAD jouent le jeu, d'autres ont plus de mal, ne serait-ce que de reconnaître l'existence de cas dans leurs établissements. Ainsi à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, l'EHPAD Le Bel Air, qui appartient au groupe Corian. Aujourd'hui, plusieurs membres du personnel sont malades, des résidents également, comme Hermine, 96 ans. Si sa famille ne l'avait pas retirée de l'établissement, elle n'aurait jamais su qu'elle était contaminée. Explication Jacques Monin.
L'histoire d'Hermine Bidot, c'est celle d'une vieille dame souffrant d'un virus qui a été ignoré jusqu'au dernier moment. Au fur et à mesure des communications qu'elle avait par Skype, on a bien pu la voir s'éteindre progressivement, devenir de plus en plus amorphe, mais elle n'a pas été diagnostiquée pour autant. Le médecin de l'EHPAD lui-même n'a rien trouvé de véritablement inquiétant. Il a donc fallu que ce soit la famille qui fasse des pieds et des mains pour la faire hospitaliser, et c'est ainsi qu'on a pu prouver qu'elle avait bien été contaminée. Résultat, aujourd'hui, sa petite fille s'interroge. Comment se fait-il que la directrice de l'établissement, alors que le confinement était en place et que les visites étaient interdites, ait pu faire entrer son propre fils de 13 ans dans les locaux? Comment se fait-il aussi que l'animateur des sessions Skype ait pu postillonner sur sa grand-mère, sans masque, dans un premier temps, sans gants, sans blouse, ce même animateur qui a quitté les lieux jeudi dernier parce qu'il se disait souffrant? Et on a appris dans la foulée que 2 aides-soignantes, un agent d'accueil et un psychologue souffrent aussi du Covid-19. Et pourtant, jusqu'au 1er avril, officiellement, au Bel Air à Clamart, le Covid-19 n'existait pas.
Jacques Monin de la cellule d'investigation de Radio France. Et les transferts de malades du Covid se sont multipliés ces derniers jours pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France ou du Grand Est, direction l'ouest de la France, en TGV ou en avion via l'aéroport d'Orly. Et pour les autorités, ce week-end, le but, c'est de dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps qui ont débuté hier soir dans la zone C. Plus de 160 000 policiers et gendarmes mobilisés.
Et le gouvernement le martèle, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement. Et pour les élèves, il va falloir rester assidu jusqu'au 4 juillet.
Et c'est la fin officielle des cours, même si les modalités des examens de fin d'année sont chamboulées. Contrôle continu pour le bac, les BEP, CAP, BTS et brevets des collèges, annoncé hier le ministre de l'Éducation. Seul l'oral du bac de français est maintenu. Alors, comment, dans ces conditions, maintenir l'assiduité? Élément de réponse avec Sonia Princet.
À partir du moment où on annonce que le contrôle continu remplace les épreuves d'examen, il faut bien trouver un moyen de tenir les élèves jusqu'à la fin de l'année. Stéphane Crochet est secrétaire général du syndicat d'enseignants SEUNSA.
C'est le véritable défi et c'est bien pour ça que le ministre a insisté autant sur cette question de l'assiduité. Il sera très difficile de maintenir la motivation et des élèves et des professeurs jusqu'à la fin de l'année si nous devions finir l'année comme ça à distance. L'enjeu là, c'est de continuer à acquérir des connaissances pour la poursuite de la scolarité.
Parents, enseignants peuvent insister auprès des élèves pour leur faire comprendre qu'ils doivent continuer à travailler pour ne pas prendre trop de retard. Pour Frédéric Wexler, inspectrice générale de l'éducation nationale et spécialiste du décrochage, il va falloir encore renforcer le lien direct avec les élèves.
Là, on est obligé, depuis le début du confinement, de réfléchir à des modalités d'assiduité qui s'adaptent à une situation extraordinaire. Donc forcément, c'est ce lien régulier qu'on a avec les familles. On fait beaucoup plus individualisé, puisqu'on se représente bien que les enfants sont dans des contextes différents et que les écarts risquent de se creuser.
Et certains élèves risquent de décrocher. D'après le ministère, depuis le début du confinement, entre 5 et 8% des élèves ne suivent pas l'enseignement à distance.
Le confinement et ses conséquences économiques, les buralistes le constatent. Les ventes de tabac montent en flèche, notamment dans les régions frontalières. Pour une raison toute simple, avec la fermeture des frontières, les fumeurs sont obligés d'aller se ravitailler. En France, en Lorraine, fini l'aller-retour au Luxembourg, témoigne ce buraliste de Rosérieul, c'est au sud-ouest de Metz.
Oh, c'est du jamais vu, hein. Moi ça fait 30 ans que je suis buraliste, j'ai jamais vu ça moi. J'ai été obligé d'aller au centre de dépannage à Nancy, j'ai jamais vu la cohue, comme tout le monde courait comme des fous, on avait chacun des gros caddies. Donc moi par exemple j'ai racheté 11 000 euros de tabac, et tous les buralistes achetaient des cartons, c'était la cohue. Il y avait même un vigile qui était devant, et ça, il n'y a jamais eu. Bien sûr, c'est qu'il y a tous les gens qui achetaient au Luxembourg, et donc, du coup, comme ils peuvent faire au Luxembourg, achètent en France, c'est une petite vengeance, quoi. Et puis quand je vois les gens revenir, et puis dire, ça fait un petit plaisir.
Les propos recueillis par François Pelleret de France Bleu Lorraine.
Et en Chine, c'est aujourd'hui une journée de recueillement national pour les victimes du coronavirus.
3 326 morts, c'est le bilan officiel. À 10h ce matin, 3h heure de Paris tout à l'heure, le pays s'est arrêté pendant 3 minutes. À Pékin, la correspondance de Dominique André.
Les sirènes retentissent dans le ciel chinois. De Pékin à Wuhan, où est apparu le nouveau coronavirus, c'est toute la Chine qui s'est soudainement figée. Dans la rue, dans les magasins, on voit des gens s'arrêter de bouger et de parler. Les drapeaux sont en berne. Des automobilistes dans leur voiture se joignent aux sirènes en klaxonnant. Dans la capitale, Xi Jinping s'est recueilli avec les principaux dirigeants chinois. Les images ont été retransmises par la télévision officielle. À Wuhan, les feux de signalisation sont passés au rouge. Le temps de cette cérémonie de deuil à l'unisson. Le personnel médical s'est rassemblé, l'air grave. Le recueillement national est aussi à la mémoire des martyrs de l'épidémie, parmi lesquels le docteur Li Wanliang, mort du Covid-19 à Wuhan. Il fut l'un des premiers lanceurs d'alerte de l'épidémie, mais la police l'avait réprimandé. Cette journée coïncide avec la fête de Qingming, la Toussaint chinoise. Par crainte d'un rebond de l'épidémie, les autorités ont recommandé à la population de ne pas se déplacer dans les cimetières. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et les États-Unis, désormais pays le plus touché en nombre de cas, plus de 261 000, près de 6 700 morts, 1 480 rien qu'hier. Et Donald Trump qui recommande désormais aux Américains de se couvrir le visage, masque notamment, mais sur la base du volontariat, dit le président américain. Les masques prisés dans le monde entier et des Américains d'ailleurs parfois accusés d'acheter à prix d'or auprès des fournisseurs chinois des cargaisons destinées à d'autres pays. Mais qu'en est-il réellement? Les États-Unis, en tout cas Claude Guibal, nie.
En France, au Canada, le même son de cloche, ces mêmes élus qui assurent que des Américains sur les tarmacs chinois surenchérissent 3 à 4 fois les prix pour rafler des commandes passées par d'autres. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a ainsi exprimé son inquiétude et demandé une enquête concernant des cargaisons pour son propre pays. Des accusations auxquelles l'ambassade des États-Unis à Paris a répliqué hier par un communiqué lapidaire. Le gouvernement des États-Unis n'a acheté aucun masque qui devrait être livré par la Chine à la France. Les informations affirment le contraire sont complètement fausses. Fin de citation. La course au masque de fait fait rage. Et alors que le marché du matériel médical, très largement délocalisé en Chine, est soumis à des tensions exceptionnelles, les polémiques enflent. La Chine, où peu d'entreprises ont des licences d'exportation directe, offre un boulevard pour une myriade de sociétés de commerce international qui jouent les intermédiaires, des intermédiaires non étatiques dont certains, rompus au marché de crise, savent que la loi du marché y est bien souvent celle du paiement immédiat cash et au plus offrant.
Claude Guibal.
Et en France, d'ailleurs on en reparlera à 8h20 avec notre invité, certains réfléchissent déjà à l'après-coronavirus.
Il faut préparer le monde, disent 58 parlementaires qui signent aujourd'hui une tribune, des députés issus pour la plupart de la gauche et de la majorité. Ils appellent les Français à partager leurs idées sur une plateforme numérique pour qu'il y ait, Karine Bécart, un avant et un après.
Un mois de réflexion collective pour tout changer, pour tout réinventer. Cette crise, écrivent les 58 signataires issus de différents partis politiques, cette crise a violemment révélé les failles de notre modèle, un modèle de développement pourtant, poursuivent-ils, qui est maintenu depuis maintenant bien trop longtemps. Donc pendant un mois, le mois d'avril, tout le monde est invité sur Internet à formuler ses propres propositions. Alors pour lancer le débat, les 58 signataires ont déjà inscrit quelques idées. Ils suggèrent par exemple de placer les hôpitaux en dehors de la loi du marché, de relocaliser en France une partie de l'activité industrielle ou encore de sérieusement nettoyer les règles budgétaires européennes. En fait, parmi les 58 signataires, plus des trois quarts sont des députés de la majorité, soit issus de l'aile gauche, comme Guillaume Chiche ou Aurélien Taché, soit ils l'ont récemment quitté, cette majorité, comme Cédric Villani ou Mathieu Orphelin. Pour l'instant, tous défendent cette plateforme numérique qui pourrait devenir, qui sait, une future plateforme politique.
Et la plateforme numérique, l'adresse lejourdaprès.parlementouvert.fr minuscule, tout collé, à retrouver également sur franceinter.fr. Là, c'est une lettre écrite par la direction de l'UEFA, l'instance de foot européen, aux fédérations et ligues nationales. Elle les appelle à terminer leur championnat suspendu, on le sait, pour cause de coronavirus, et ce sous peine de voir leur club interdit de participer aux prochaines compétitions. Explication Jean-Pierre Blimeau.
Pour le président de l'UEFA, la décision d'abandonner les compétitions est à ce stade prématurée. Le ton tourne à la menace lorsqu'il laisse entendre que les clubs issus des pays récalcitrants pourraient ne pas disputer de Coupe d'Europe. La menace est à peine voilée pour le football belge qui envisage de mettre un clap de fin sur sa saison. En France, l'objectif est de terminer le championnat, mais plusieurs présidents de clubs ont fait entendre une voix discordante. À Lyon, par exemple, Jean-Michel Aulas souhaite tout effacer et repartir sur les bases de la saison dernière. À Brest, Denis Le Saint est convaincu qu'il faut s'arrêter là. En Angleterre, la vice-présidente de West Ham est sur la même longueur d'onde. En Italie, le président de Brescia a même menacé de déclarer forfait s'il fallait reprendre. Le président de Saint-Étienne tempère quelque peu ses propos. Pour Bernard Caiezo, il est hors de question de forcer la décision, surtout pour des raisons sanitaires. Même si derrière la crise du coronavirus, il y a surtout une question d'argent, si les compétitions nationales, les Coupes d'Europe et surtout la très lucrative Ligue des Champions n'allaient pas au bout, ce pourrait être un coup très dur pour les finances du foot européen.
Allez, on termine, Estelle, avec cette découverte musicale.
De nouveaux talents parisiens dénichés par le label Kitsune, rassemblés dans une compilation, Mathieu Culeron.
Mais je m'efface souvent, c'est vrai, je plane à plein temps.
Fidèle à son cahier des charges depuis 15 ans, le label Kitsune nous propose une nouvelle compilation de jeunes pousses. Parmi elles, Ella, jeune chanteuse française et accessoirement sœur de Clara Luciani, elle sort un premier EP très personnel.
Voilà, le but était de rester, quoi qu'il arrive, même si les messages étaient un petit peu tristes ou nostalgiques, garder toujours un côté un petit peu frais et une rythmique bien soutenue et dansante pour que jamais on écoute ma musique avec beaucoup trop de tristesse.
Et là, pour sa première sortie, elle a voulu mélanger les saveurs tout en restant fidèle à ses fondamentaux.
J'ai remis les titres à deux réalisateurs de talent, Angelo, qui a travaillé avec Christine de Queens et Edith Preto, et Enzo Serra, qui a travaillé lui plus avec des rappeurs comme Nemir, par exemple. Voilà, donc on avait ce côté un petit peu plus pop du côté d'Angelo et le côté un petit peu plus R&B et hip-hop du côté d'Enzo. Voilà, c'est vraiment mes deux passions, quoi.
Et là, sur la dernière compilation, Kitsune toujours aussi rusé et sur un maxi disponible sur toutes les plateformes.
Et son titre, pas d'ici.
Et tout fini en musique avec le journal d'Estelle Schmitt. Merci Estelle. Le temps de ce samedi avec vous Jean-Michel Golinski et donc des températures plus douces qu'hier.
Avec le vent qui passe au sud, les températures vont gagner quelques degrés par rapport à hier et demain la hausse va se poursuivre, mettant les valeurs largement au niveau d'un mois de mai. Cet après-midi, il est prévu des maxima de 16 à 19 degrés du nord de la Loire au nord-est, avec par exemple 16 à Reims et Lille, 17 à Caen et à Strasbourg, 18 du Val-de-Loire au bassin parisien, 19 à Nantes ainsi qu'à Rennes, avec pour toutes ces régions de la moitié nord, plus de bleu que de nuages, après la levée rapide des brouillards et des grisailles des premières heures. Plus au sud, soleil vaillant dès le lever du jour, avec souvent 20-22 degrés au cœur de l'après-midi, jusqu'à 24 sur le Pays Basque, avec un vent plus sensible en seconde partie de journée sur la pointe bretonne, et un autant vers 80 km à l'heure ce soir sur les hauteurs du Tarn.